Radio Tintoin, la radio de Vierzon et de ses environs.
Bonjour, alors c'est Tintoin fait le lien avec pas mal de retard aujourd'hui, de toutes sortes. D'abord parce que d'habitude on commence le matin à 9h et que là on a repoussé à l'après-midi. Puis après, bon, ben, on a une invitée qui ne connaît pas encore la ville et qui s'est perdue dans les sens uniques, etc. Mais elle est là, elle est à l'antenne, donc en bonjour Aurélie. Donc Aurélie Delage, hein, je vous présente très vite et puis après on va se lancer une petite musique le temps que tout le monde respire un peu. Donc vous êtes la nouvelle directrice du cinéma des Ciné-Lumière, c'est ça ?
La nouvelle propriétaire effectivement du Ciné Lumière, et je serai assistée de ma directrice Marina qui n'est pas là aujourd'hui et qui va rejoindre l'équipe très très vite pour reprendre la direction du cinéma.
Vous avez pris officiellement vos fonctions?
Alors, j'ai commencé cette semaine au niveau de la programmation, tout à fait. J'ai repris en charge la programmation lundi, donc pour celle qui débutait hier, donc du 10 au 16 janvier. Ça, effectivement, c'est en place. Et on attend la signature définitive qui ne saurait tarder et qui doit intervenir la semaine prochaine, normalement, au plus tard. Après, c'est les joies de la paperasserie et de côté administratif et légal que nous devons assumer.
Oui, j'ai vu que vous aviez commencé à vous occuper de la programmation,
oui,
puisque dans le Berry de ce matin, que je conseille à tous nos auditeurs de lire, bien entendu, eh ben, il est question d'un film arrêt et essai que vous avez mis en place, hein, c'est ça, hein ?
Alors, oui, il y a toute une vague de programmation de films arrêt et essai, et notamment un cycle arrêt et essai que j'ai nommé L'Étincelle. Cette semaine, nous proposons à l'affiche L'Innocence de Kore-eda, qui a été présentée au dernier festival de Cannes. Donc, c'est un rendez-vous qu'on va essayer d'instaurer tous les jours, à peu près aux alentours de 18h, donc avec un film en version originale. Alors bon, voilà, dans la version originale, quand c'est en français, alors, mais sinon ce sera sous-titré systématiquement.
Avec le travail d'arrêt d'essai, vous êtes dans la continuité du travail que vous effectuez en fait auparavant à Gara.
Tout à fait, exactement.
Voilà,
oui, tout à fait. Et qui était aussi déjà fait un petit peu ici, puisque le cinéma est déjà classé arrêt essai, et que c'est quelque chose que j'ai envie d'intensifier. On a un très beau parc de salles, et moi j'ai envie de pouvoir après développer les labels, et notamment le label Jeune Public.
Alors voilà, on va en parler.
Hein. Bien sûr.
On va développer vos idées, vos projets en fonction de tout ça. Donc déjà, ben, bienvenue à Vierzon. Hein.
Merci.
On ne vous l'a pas encore dit, mais faut le dire.
Bienvenue à Vierzon.
Et
merci.
Donc c'est une ville où il se passe plein de choses, ouais. Même si les Vierzonais ont de la difficulté à l'intégrer. Ils ont un petit peu un auto-dénigrement qu'il faut absolument contrer. Bon, la radio, on s'en charge aussi d'ailleurs.
Non, mais tu sais très bien, c'est la faute à Brel, ça. Tu as voulu voir Vierzon.
Et voilà. Et oui. Et puis en fait, il a vu sa mère. Bon.
Et ben, le point de départ, il est là, hein, de toute façon.
Non.
Alors bon, ben on va écouter. On va se mettre en route avec Willie Nelson, On the Road Again. Allez, on change un petit peu de style. On va dans l'anglais et puis on reviendra pour parler cinéma.
On the road again, just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again, going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way, and our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road.
Julien Robert.
Oh bon.
C'est vrai.
Eh bien donc, nous revoilà ensemble. Bon, on parlait de route, hein. C'était un petit peu le thème de la chanson. Vous vous êtes baladé, nous, là, vous êtes en train de changer de région, hein. C'est ça, hein, on peut le dire
exactement.
Comme ça. Donc je représente, hein, pour ceux qui prendraient l'émission en cours de route, donc Aurélie Delage, la nouvelle directrice des cinémas Lumière à Vierzon. Alors oui, Aurélie, vous avez un parcours. Bon, j'ai eu droit à votre CV. Hein, je suis arrivé à le trouver sur le net.
Carrément.
Ah ouais, ouais, ouais. Donc je sais que vous avez déjà fait, bah, depuis l'université, même peut-être avant, vous aviez un projet quand même avec le cinéma. Hein.
Ah oui, tout
on
à
est
fait.
D'accord.
Oui. Ah, on est tout à fait d'accord, effectivement.
Bon, ouais. Et donc oui, bon, il s'est passé du temps avant que ça se réalise concrètement. Hein. En plus, vous avez une expérience un petit peu dans toutes sortes de domaines, même si c'était toujours avec le thème du cinéma derrière. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez en parler un petit peu de votre parcours ?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai rencontré ma passion pour le 7e art dans le cadre de l'option cinéma audiovisuel au lycée. Alors, à l'époque, à Angoulême, au lycée de l'image et du son, hein, qui est un lycée où il y a pas mal de spécialités, des BTS et l'option sur les classes seconde, première et terminale. Donc, voilà, à cette occasion, j'ai découvert des enseignants fabuleux et qui m'ont donné le goût pour le 7e art. Et à l'issue de mon baccalauréat option cinéma, j'ai poursuivi à l'université de Bordeaux, art du spectacle, une licence et un master après, où je me suis spécialisée en économie du cinéma et en particulier l'économie de l'exploitation. Donc voilà. À la suite de ce master, j'ai rejoint ma deuxième passion qui est l'enseignement, puisque j'ai été enseignante cette fois en économie-gestion pendant 6 ans dans un établissement, un lycée technologique et
professionnel. Non, je surveille en même temps.
Vous surveillez que
je ne
me trompe pas parce que...
Je surveille que vous ne trompiez pas par rapport à votre CV, c'est bon.
Jusqu'à là, c'est... Ouais, ça va, c'est
vous
bon.
Vous ne ratez pas de marche, c'est impeccable.
Donc voilà, pendant quelques années, j'ai pu travailler dans l'enseignement. Toujours en mêlant l'aspect cinéma, puisque je faisais participer mes élèves au dispositif d'éducation à l'image. Et en 2015, j'ai rejoint mon papa, qui à l'époque a lancé un projet de cinéma de 6 salles à Gara, à côté d'Angoulême, en association avec le groupe Mégarama. J'ai pris la direction du site donc en novembre 2015, jusque-là cet été. Et donc voilà, j'ai fait un petit peu mes armes dans l'exploitation à ce moment-là. Et toujours en lien avec l'exploitation, durant ces quelques années, j'ai intégré les syndicats régionaux, puisque les cinémas en France sont organisés par syndicats régionaux. Donc là, en l'occurrence, c'était le syndicat du Sud-Ouest à l'époque, pour participer à la vie de nos établissements, pour défendre nos établissements, les enjeux de notre profession. Et donc, petit à petit, j'ai gravi les étapes aussi au sein de la Fédération nationale des cinémas français. D'abord comme présidente de la branche de la moyenne exploitation. Alors pour vous situer, c'est les établissements, les cinémas qui font entre 80 et 250 000 et 450 000 entrées par an. Et donc ça pendant 2 ans, j'ai fait un mandat. Et ensuite, on m'a proposé de prendre la commission d'éducation à l'image, présidence de la commission d'éducation à l'image. Chose que j'ai évidemment acceptée puisque je pouvais par ce biais allier mes deux passions, le cinéma et la défense de notre métier, et bien sûr l'enseignement et la défense des dispositifs d'éducation à l'image. Et oui. Depuis 2021, je suis aussi vice-présidente de la Fédération nationale des cinémas français.
Oui, ça rejoint complètement ce que vous défendez, justement. C'est ça.
C'était aussi ça. Je pouvais allier mes deux passions, défendre les intérêts de la profession et bien sûr, l'éducation à l'image qui aussi m'a forgée aussi dans mon parcours et à qui je dois beaucoup aujourd'hui.
Et en fait, vous êtes encore un peu dedans, hein, je crois, parce que vos projets vis-à-vis des scolaires et tout ça, c'est un petit
ici
peu...
Écoutez, j'espère bien, on est en plein dedans. Alors là, c'est vrai que j'arrive, on est en cours d'année scolaire, donc je dois m'imprégner de ce qui est fait, de ce qui est déjà lancé, des élèves qui sont inscrits, des différentes classes. Mais très, très vite, j'envisage effectivement qu'on développe ce biais-là. On a aussi en France actuellement un dispositif qui est super, c'est le Pass Culture. Oui. Pour les élèves, dès cette année, la classe de 6e, 5e et... jusqu'à la terminale, qui permet d'accéder à des budgets pour l'établissement. C'est aussi une levée d'un frein financier. Donc voilà, ça, on peut le mettre en place dès maintenant en proposant des séances complémentaires aux enseignants et aussi pour aller toujours en direction des enseignants, ce que je souhaite mettre en place, c'est une carte préférentielle pour les enseignants qui participent au dispositif pour qu'ils puissent accéder à l'ensemble des séances de notre cinéma à tarif préférentiel tout au long de l'année scolaire.
D'accord. Donc là, oui, ça, il faudra vous mettre en contact avec l'éducation nationale du coin.
Hein, eh bien, c'est dans les tuyaux, on va dire.
Oui, non, parce que nous, à la radio, c'est vrai qu'on fait des émissions dans les écoles, dans les lycées, et dans les maisons de retraite, et quelquefois les deux à la fois, parce que des lycéens vont interviewer des personnes âgées. Donc, c'est un sujet dans lequel on baigne déjà un petit peu. Donc, ça sera un de vos projets qui se met en place.
Exactement.
Qui va
se mettre en place très rapidement. Oui,
ouais, d'accord. Alors là, bon, on va faire une petite coupure musicale tout de suite avec un producteur, mais très très connu, en tout cas en France, un producteur toulousain. Est-ce que vous voyez de qui je veux parler ?
Nougaro ?
Hein ?
Claude Nougaro ?
Tu l'as trouvé. Ah. Ouais, Sonia a trouvé. Donc Nougaro, parce qu'il était producteur de cinéma, vous ne le saviez pas ?
Alors, je ne le savais pas, mais pour tout vous dire, mon papa qui dans son passé a eu un...
Vous n'avez pas cité son... Guy Delage, on peut citer son nom.
Oh, vous pouvez citer son nom, tout à fait, mais il a accueilli Claude Nougaro dans son festival de musique, puisque avant d'avoir ce cinéma, il avait un festival de musique rock dans la campagne charentaise à Marton. Peut-être que ça parlera à des générations. Voilà, aux Charentais en tout cas. Et à l'époque, il a reçu Monsieur Nougaro et il y a eu une très belle histoire d'amitié.
Bon, quand je dis que c'est un producteur, c'est quand même un producteur très très autonome. Hein. Je dirais qu'il produisait pour lui-même, c'est ce que va nous dire son.
D'accord.
Son titre, ça s'appelait Le cinéma. Ouais.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardot peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche, j'ai du cœur. Mais pas d'estomac, c'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. D'abord un gros plan sur tes hanches, puis un travelling panorama. Ta poitrine grand format, voilà comment mon film commence. Souriant, je m'avance vers toi. 1m80, tes biceps plein les manches. Je crève l'écran de mes nuits blanches où je me fais du cinéma. Te voilà déjà dans mes bras. Avalanche sur l'écran noir de mes nuits blanches où je me fais du cinéma une fois, deux fois, dix fois, vingt fois. Je recommence la séquence où tu me tombes dans les bras. Je tourne tous les soirs, y compris le dimanche. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Vais-je te prendre par les hanches comme sur l'écran de mes nuits blanches? Non, je te dis comment ça va et je t'emmène au cinéma.
Bon, il nous emmène au cinéma, enfin, Et donc, on y est un petit peu, là, grâce à Aurélie. Bon, c'est pas tout. Vous avez un super parcours. Vous avez des projets, on a vu. Comment ça s'est passé, votre départ des Charentes?
Alors, ça n'a pas été, ça a pas été très simple.
Est-ce que vous voulez en parler?
Bah, je peux en dire deux mots, parce qu'il n'y a pas du tout de, il y a pas de secret. Oui. Voilà, c'est une notoriété publique. Donc, mon papa était associé avec le groupe Mégarama, avec une vision des choses pas forcément en phase, notamment sur l'exploitation. Nous, on était plus tournés vers une exploitation familiale, avec évidemment, notre cœur de métier, c'est le spectateur, et c'est pas forcément toujours la vision des grands groupes. Et il y a eu des désaccords, des mésententes. Moi, j'étais pas forcément partie prenante de tout ça, et j'étais un petit peu quelque part un dommage collatéral de la mésentente. Et donc voilà, ça s'est terminé l'an passé. Et moi, très vite, j'ai eu envie de rebondir, de rester dans le milieu. Évidemment, je me suis posé la question de retourner dans l'enseignement, mais le cinéma était plus fort. Et j'ai rencontré Monsieur Fourneau, qui m'a confirmé souhaiter vendre le cinéma. Et c'est pour ces raisons que j'ai rebondi et
vous
que
étiez, j'ai découvert Vierzon. Vous étiez à la recherche de salles ailleurs?
Oui,
ou
tout
c'est
à
ça,
fait.
Oui,
oui, tout à fait. J'ai à cette période un peu prospecté des salles qui pouvaient être susceptibles d'être vendues, des salles indépendantes. Mmh. Ça, c'était un critère important pour moi. Aussi des complexes de plusieurs salles. Pour avoir, enfin, parce que c'était l'exploitation, on va dire, que je connaissais le mieux, puisqu'à Garage, je programmais un cinéma de 6 salles, donc rester un peu dans une taille comparable.
Là, vous en avez une de plus.
Là, j'en ai une de plus, alors c'est génial. Ouais. Et en plus, on n'a pas de concurrence autour. Alors que moi, je travaillais justement en zone concurrentielle.
En zone concurrentielle. Et vous avez, c'est ce qu'on disait en antenne, là, on en parlait, vous avez un avantage énorme, puisqu'il est situé en centre-ville, ce qui est quand même très rare.
Il est situé en plein centre-ville, et moi, je dois avouer que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le bâtiment, pour le travail de réhabilitation qui a été fait autour de cette ancienne usine de tracteurs. Moi, je suis issue d'une famille d'agriculteurs, voilà, la génération de mon grand-père. Et bon, voilà, on vient de la terre. Hein, donc, moi, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai visité ces locaux, ce tracteur sur la place. Voilà, on parle de la chanson de Brel, mais j'ai bien compris l'importance des tracteurs pour la ville de Vierzon. Et je trouve que le travail de réhabilitation qui a été fait avec le cinéma, le bowling, et là, plus récemment, Algosup, que j'ai eu le plaisir de visiter... C'est vrai, c'est quelque chose d'unique.
Voilà, dans la continuité, on est sur un site magnifique.
Ah, le site est superbe, et il y a une vraie volonté, on voit des politiques, d'investir et de développer ce quartier.
Et de garder le souvenir architectural qu'il représentait. Hein. Moi, j'ai travaillé, j'étais maçon finisseur sur le site à une époque où je travaillais encore, ça c'était avant la retraite. Et donc, oui, non, il y a eu un vrai désir de garder. Des charpentes en béton qui sont très rares, mais en même temps d'intégrer là au milieu du moderne, des salles bien placées. Donc là, vous aurez du boulot encore, je crois, au niveau des salles, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup d'isolation.
Alors oui, un des chantiers effectivement qu'on mène au sein de la profession, c'est la question de salles un peu plus vertes, plus vertueuses en tout cas d'un point de vue écologique. Alors tout d'abord, effectivement, pour répondre aux problématiques d'explosion des coûts énergie, et aussi vraiment dans un processus plus vertueux. Longtemps, c'est pas du tout poser ces questions. On avait besoin de changer un projecteur, on le changeait, on en achetait un nouveau, puis on jetait l'autre. Aujourd'hui, on est aussi dans des processus où on se dit qu'il faut réhabiliter le matériel,
recycler.
Voilà. Là, moi, j'ai fait déjà des enquêtes un peu pour proposer des projecteurs laser, donc moins énergivores et avec une meilleure qualité d'image, mais en utilisant un circuit vertueux de projecteurs reconditionnés. On a changé les lampes au xénon, très très énergivores et très coûteuses, voilà, pour mettre des blocs laser à l'intérieur. Donc ça, c'est aussi en cours.
Vous abordez un point important, c'est être exploitant de salle de cinéma, c'est pas simplement avoir les clés dans la main. Vous êtes multifacette, en fait.
Alors, on est polyvalence dans la noblesse de ce terme. On fait vraiment, vraiment tout. Et moi, la question de la polyvalence, je vois pas du tout ça d'un point de vue négatif. Et au contraire, ça donne une richesse à notre métier. Comme vous le dites justement, c'est effectivement, on ne prend pas la clé et on tourne la serrure et hop, on met un film dans le projecteur. Y a tout un travail effectivement d'entretien du bâtiment, de modernisation du bâtiment. Et en France, ce qui fait aussi la force de notre parc de salles, c'est qu'on a des exploitants qui investissent beaucoup dans la rénovation, l'entretien, la modernisation de leurs salles.
D'autant plus qu'en France, la France reste quand même le premier pays européen en termes d'exploitation d'entrée en salle de cinéma. On est le premier.
Tout à fait, tout à fait. Et là, les derniers résultats communiqués par le CNC la semaine dernière l'ont confirmé. Ce qui fait aussi la force de notre exception culturelle française, tout d'abord, c'est le parc de salles et c'est aussi la production de films, et ce qui nous permet de mieux résister par rapport à des pays qui sont très, et là je mets des guillemets, américano-dépendants. Nous, évidemment, le marché américain fait quand même beaucoup d'entrées, mais on a la chance d'avoir une production française importante et de qualité.
Je vais poser la question à Jean-Luc, justement. On va voir un petit peu.
Est-ce que moi aussi je suis capable de répondre à des questions pièges.
Jean-Luc, oui. En moyenne, combien de films sortent en France par an ?
Pas en France, mais actuellement, un producteur, enfin quelqu'un qui tient une salle, s'il voulait vraiment savoir tout ce qui sort, il y a 750 films par an. Je me suis calé. J'ai été faire une petite recherche quand même avant de vous questionner là-dessus, et j'ai été étonné de la production. Alors justement, pour nos auditeurs, parce que tout le monde ne connaît pas forcément les principes, comment ça fonctionne. On parle de grands réseaux, CGM, Megamax ou d'autres, je sais pas. Vous avez une autre vision des choses, plus familiale. Vous l'avez dit tout à l'heure,
tout à
vous avez employé le terme. Qu'est-ce qui fait la différence? Bon, le projet, vous en avez un peu parlé. Il y a des gens qui s'intéressent aux personnes et d'autres qui s'intéressent à leur portefeuille. On pourrait le dire comme ça. Je résume peut-être pas beaucoup.
C'est une façon de voir les choses, en effet.
Et donc, qu'est-ce qui fait votre originalité ? Ici, à Vierzon, c'est une salle indépendante déjà. Et ça veut dire
quoi ?
Tout à fait.
Alors, salle indépendante, ça veut dire que déjà, on prend les risques seuls. Alors, la particularité qu'on a avec Vierzon, c'est que c'est un bâtiment aussi qui a été construit et pensé dans la ville avec la communauté de communes, la SEMVI et toute une économie locale, donc c'est un petit peu la particularité. Néanmoins, au quotidien, les décisions, c'est moi qui les assume. La programmation, je m'en charge, et du coup, je fais des choix. Programmer, c'est renoncer, c'est parfois faire des erreurs, mais c'est essayer avant tout de plaire à son public et d'être à l'écoute des désirs de son public. Donc c'est vrai qu'une des premières choses que je dis toujours aux employés, c'est si jamais un client, un spectateur vous dit « Tiens, est-ce qu'on va passer ce film ?» Surtout, notez-le et dites-le-moi pour qu'on puisse répondre à ses envies. Et ça, je pense que dans l'exploitation indépendante, c'est vraiment un point essentiel, un point clé. C'est l'accueil, l'écoute et vraiment être à la disposition de son public.
Mais il n'y a pas de secret, c'est ça qui fera la réussite.
Tout à fait.
C'est être à l'écoute justement du public.
Tout à fait, tout à fait. Et d'une salle à l'autre, d'un territoire à l'autre, d'une ville à l'autre, on n'a pas forcément le même public, la même typologie de salle. Moi, je sais que ce que je programmais à Gara, par exemple, j'avais donné juste un type d'exemple, je n'avais pas de public adolescent. J'étais hors ville, pas du tout accessible en bus. Donc, tous les films qui se destinaient majoritairement, on va dire, à un public adolescent, souvent, je faisais un choix de ne pas les prendre pour favoriser ma clientèle, par exemple, senior, qui, elle, était présente en semaine, et pour trouver des films qui pouvaient plus leur convenir. Voilà.
Oui, donc en fait, là aussi, vous avez une meilleure salle, on pourrait dire, que ce que vous aviez à l'époque. Alors, avec cette proximité du centre-ville, ça change quand même les choses aussi.
Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'au niveau de la typologie de nos spectateurs, ça a un impact. Et moi, depuis ces quelques jours où je suis présente, j'entends énormément de commentaires positifs sur le cinéma, sur son implantation dans la ville, sur son accessibilité aussi, sur son modernisme, parce que c'est quand même un établissement qui a 18 ans, mais où il y a eu vraiment des choix architecturaux à l'époque très forts et des choix de matériaux qualitatifs qu'on ne trouve pas partout en France, il faut le dire. Enfin, voilà, pour une commune comme Vierzon, c'est vraiment un cinéma en pointe et toujours dans l'air du temps. Clairement.
Et vous allez avoir fin mai et début juin quand même la troisième édition du Festival de Demain qui est quand même exceptionnelle. Là vous êtes sur quelque chose de formidable.
Oui. Vraiment. Tout à fait. Non, c'est vraiment pour la ville, c'est l'occasion aussi d'attirer un événement culturel fort, un événement autour du cinéma et je pense que c'est une chance aussi pour la ville.
Avec un vrai engagement comme le porte justement le nom de...
Et un engagement de la collectivité qui est vraiment qui est partie prenante et qui s'investit fortement dans cet événement.
Oui, oui, ben ça c'est vrai que c'est bon. Il y a, je crois qu'ils ont doublé le nombre de spectateurs d'une année sur l'autre. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y avait le Covid à l'époque, ça a dû faire un pro. Bon, on a connu jusqu'à 150 000 entrées, je crois, dans les cinémas
avant Covid.
Et là, on est à un peu plus de 100 000, je crois.
Tout à fait. Sur l'année 2023.
Donc, il y a presque un tiers de spectateurs à rameuter, à refaire venir.
À reconquérir.
À reconquérir.
À reconquérir, oui. C'est mieux dit, Jean-François. Tu le dis bien. Donc, écoutez, bon, on va là aussi encore nous faire une petite coupure. On se prend Boris Vian et le cinématographe.
Allez,
hein, vous
super.
Connaissez un vieux classique.
Oui, un vieux classique.
On y va.
C'est parti.
Quand j'avais 6 ans, la première fois que papa m'emmena au cinéma, moi je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras, des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Un piano jouait des choses d'atmosphère, Guillaume Tell ou le grand air du Trouvère, et tout le public en frémissant se passionnait pour ces braves gens. Ça coûtait pas cher, on en avait pour ces 3 francs. Belle, 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 belle comme l'amour, un rêve est passé sur l'écran, et dans la salle obscurément, des mains se cherchent, des mains se trouvent timidement. Belle, 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 la revoilà, et dans la salle plus d'un cœur bas. La voiture où elle se croit en sûreté vient de s'écraser par terre avec un essieu cassé. Le bandit va pouvoir mettre la main sur le fric, c'est tragique, nom d'un chien. C'est fini, tout s'allume, à mercredi prochain. Maintenant ce n'est plus mon papa qui peut m'emmener au cinéma, car il plante ses choux là-bas, pas loin de 5 cufa. Mais j'ai rencontré une Dalila, une drôle de môme, une fille comme ça. Elle adore aller le mercredi dans les cinémas. Bien sûr, c'est devenu le cinémascope, mais ça remue toujours et ça galope. Et ça reste encore comme autrefois, rempli de cowboys sans foi ni loi et de justiciers qui viennent fourrer leurs grands pieds dans le plat. Gar, 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 Gary Cooper s'approche du ravin d'enfer. Fais attention, pauvre crétin, car Alan Ladd n'est pas très loin. À 500 mètres, il loge une balle dans un croûton de pain. Gar, 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 pendant ce temps-là, je la prends doucement au creux de mon bras. Le fauteuil où elle se croit en sûreté ne m'empêche pas,
tu
ma
me dis
voix
quand c'est bon
d'arriver à l'embrasser. J'ai pas vu si Gary sort gagnant, mais comme c'est le cinéma permanent, ma chérie, rappelle-toi, on est resté un an et on a eu beaucoup d'enfants.
Bon, c'est pas tout neuf, hein. Ça a de la bouteille, comme on dit, mais ça nous permet aussi de voir bon, que le cinéma, c'était un lieu de rencontre. Hein. C'est ce que nous raconte un peu Maurice Vian, une façon de se rencontrer. Ça redevient un lieu de rencontre, parce que c'est bien d'être devant son canapé, là, de regarder un beau film, même sur écran géant. Il n'y a pas le même rapport, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Il n'y a pas la même magie, effectivement. Alors, c'est vrai que nous, on a été une des professions très impactées par le Covid, hein, puisqu'on a eu 300 jours de fermeture. On a eu un ennemi, on va dire, de taille, le canapé des Français. Voilà.
C'est votre ennemi principal. Hein.
Bah, il y en a pas un qui s'appelait Netflix.
Bah, qui est lié au canapé, effectivement. Mais
dans la prolongation, c'était le bras du canapé.
Après, je pense pas que bon, les plateformes Netflix et toutes ces plateformes, bon, c'est une offre complémentaire. Moi, je crois pas que ça attaquera notre cinéma et.
Là, c'est limite.
Exactement. Et on le voit dans les spectateurs. On a de nombreux spectateurs qui sont abonnés aux plateformes, mais qui néanmoins fréquentent très régulièrement les salles parce qu'on n'y trouve pas forcément la même chose et le même plaisir et la même magie. Et moi, je veux croire encore à la magie du cinéma et c'est aussi pour ça que j'ai investi dans un cinéma aujourd'hui.
Oui, alors bon, ça, enfin, on en parlera de ça parce que c'est vrai qu'à un moment, on a eu un de nos chanteurs qui a fait une chanson là-dessus d'ailleurs, la dernière séquence.
Non, séance. Oh, séance.
La séance, séance. Ah, séance. Ouais, non, non, la séquence, c'est autre chose. Oui, tu as raison. Ah. Mais il va me rectifier, hein. Il n'y a pas de problème. Bon, là, j'éviterai les erreurs comme ça. Donc, oui, la dernière séance. Et en fait, il en arrivait à l'idée que c'était terminé. On n'aurait plus de chocolat glacé. C'est vrai qu'on n'en a plus, hein, de chocolat glacé. Mais que, bon, le cinéma s'était remplacé par la télé. Et alors, en fait, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, comme on a notre petite Sonia qui est là avec nous, là, aujourd'hui, puis qui est impatiente un peu, elle a envie de présenter le plateau, là, Sonia, puisque tu fais partie maintenant de Radio Tintouin. Raconte-nous un peu, là, qu'est-ce que tu vois sur le plateau, là?
Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je me présente Sonia Aurélia Cugini. Vous pouvez me retrouver, bien sûr, sur les réseaux sociaux, hein, @Sonia Aurélia Cugini, C-U-G-I-N-I. Donc voilà, moi je suis une journaliste depuis 2008, j'ai commencé par des plateaux de boxe, hein, qui n'a rien à voir avec le cinéma, les plateaux de boxe sur Canal, avec le grand Daniel Alouche, speaker de boxe. Voilà, moi je suis venue ici donc, parce que j'aime beaucoup le cinéma, Jean-Luc m'a proposé de venir à cette émission, et je voulais proposer quand même de présenter le plateau. Alors je vois devant moi, alors pouvez-vous vous présenter quand même?
Ah bah oui, alors bon,
allez, Jean-François.
Jean-François, alors moi je suis écrivain, donc je publie des biographies musicales d'artistes rock, surtout sur le rock, et des récits à côté de ça. J'ai publié pour l'instant 7 livres et je co-organise le Salon du Livre de Vierzon.
Super.
Voilà.
Alors, donc là, on n'est pas dans le cinéma, pas dans la télé, c'est dans le bouquin. Là encore, une façon aussi de rentrer dans l'imaginaire. Alors, continue Sonia.
Alors, nous avons Jean-Luc, mais qui es-tu, Jean-Luc?
Présente-toi, Jean-Luc.
Je me pose encore la question, hein, j'ai pas fini par...
Parce que tu vois, on voit jamais ton visage, mais alors, on peut penser que tu es très jeune, mais comme tout à l'heure, tu as dit que tu as travaillé aux usines, bah maintenant, on pense que tu as un certain âge.
Non, pas aux usines, moi, je suis à travailler après pour faire les cinémas. Attention,
ah oui.
Bah, j'étais maçon finisseur. Bah, oui, dans ce qui est devenu le complexe Ciné-Lumière.
En ayant dit ça, maintenant...
Ça fait quand même quelques petites années que j'ai pris ma retraite. Hein, j'ai 72 ans, pour le préciser, comme ça les gens pourront...
On dirait pas, hein, c'est un beau gosse. Jean-Luc, c'est un beau gosse.
Non, puis en plus...
On le précise quand même.
Quand on entend la voix, on se fait une certaine idée, mais non, vraiment.
Bon, j'ai décidé de rester jeune. C'est aussi ça, dans ma tête en tout cas.
C'est ton secret.
Et donc, c'est pour ça que je suis là, que je suis toujours intéressé par des nouvelles choses. Sonia, tu veux continuer?
Oui, alors donc Madame Delage, Aurélie Delage, mais on dirait un peu Julia Roberts. Non, franchement, non, mais objectivement.
On
vous l'a déjà dit, j'en suis
pas
sûre.
Pas du tout.
C'est pas vrai.
Non.
Bon, il faut bien une première.
C'est incroyable.
Alors là, mais quel accueil.
Non, mais c'est vrai que c'est une ressemblance assez flagrante pour moi, en tout cas.
Je suis touchée. Alors,
vraiment magnifique. Hein.
Alors, ce qui est important, c'est qu'on est filmé par, par Berry Good News, quand même.
Oui, oui, hein, Berry Good News qui est là avec nous. Mais qu'on ne voit jamais, d'ailleurs.
Et qu'on ne voit jamais.
Parce qu'il est toujours derrière
la caméra.
Alors, Berry Good News, c'est le papa d'une grande talentueuse chanteuse c'est une adolescente, elle a 16 ans, c'est ça?
Ouais, elle a 16 ans.
Voilà, et il faut la découvrir, elle s'appelle Gersand.
Elle a une super voix et elle est en train de prendre, je dirais, de la maturité dans sa voix, ce qui lui manquait un petit peu là. Elle a une voix très juste, très belle, mais elle manquait un peu de personnalité, elle est en train d'en sortir quelque chose. Bah, c'est normal, et à l'âge qui arrive, hein, c'est très très bien.
Mais alors je voulais poser une petite question à Aurélie de l'âge. Alors, il y aura donc des avant-premières d'organiser avec justement des présentations de films d'art et essai aussi peut-être.
Bien sûr. Alors, il y aura des avant-premières sur les films qu'on peut proposer en sortie nationale. Là, comme je vous le disais, je reprends juste la programmation depuis ce lundi. Donc, on est en train de voir pour les films, quand les distributeurs proposent dans le cadre d'une sortie nationale une avant-première le week-end qui précède ou la veille ou l'avant-veille. Donc ça, on est en train d'en positionner quelques-unes.
Parce que les gens veulent voir des avant-premières avec leurs artistes préférés.
Tout à fait.
Et ils ont envie de faire des rencontres artistiques.
Après, tout à fait. Et après, en dehors des avant-premières classiques, on va proposer des avant-premières avec des invités. La prochaine que l'on va avoir, c'est Kev Adams qui vient le dimanche 28 janvier présenter Maison de Retraite 2. La première édition avait eu un succès incroyable en salle et avec un public absolument transgénérationnel, vraiment des très jeunes jusqu'aux personnes âgées. Vraiment, ça a été un succès du box-office en 2022. Donc,
il ne sera pas tout seul d'ailleurs.
Alors non, il sera accompagné de Claude Zidi Junior, voilà. Le réalisateur du film. Donc vraiment, on compte sur vous, les Vierzonais, pour faire un accueil.
On peut rappeler l'heure de la séance.
Alors l'heure, ce sera c'est le dimanche 28 janvier, ce sera à 20h35 la séance. N'hésitez pas à réserver vos places. Kev Adams viendra faire une présentation de film donc avec le réalisateur. Ça, c'est le premier événement qu'on a de confirmé. Et je peux déjà vous dire qu'on est en train de travailler sur de prochaines dates avec un film qui est en compétition à l'Alpe d'Huez la semaine prochaine, qui s'appelle « Et plus si affinité », avec un duo de réalisateurs super qui avait fait le film « Jumeaux mais pas trop », une comédie avec Ahmed Silla. Donc là, ils reviennent toujours sur le thème de la comédie, évidemment, donc avec un film très grand public. Et là, la sortie est prévue, si tout va bien, début avril. Donc la tournée est en train de s'organiser et devrait avoir lieu courant mars. Là, j'attends des précisions, mais évidemment, dès qu'on aura une date, on vous tiendra informé, puis vous serez les bienvenus.
Merci, c'est gentil Aurélie.
Et oui, bah, Radio Tintouin, vous nous tenez au courant, hein, parce évidemment. Évidemment, on transmet. Hein,
avec
tout
plaisir.
Ça.
Alors, Jean-Luc, quand même, on a la chance que ce soit filmé. Oui. Mais ça nous permet de voir que Aurélie nous envoie un message quand même. C'est le premier message qu'elle nous envoie, c'est un magnifique pull mignon, sur lequel est écrit le mot amour. Et nous t'en remercions.
Eh bien, avec plaisir.
S'il était à sa place dans le monde, je pense que les problèmes seraient résolus. Mais petite question, beaucoup plus intime, peut-être familiale. Vous avez une famille ?
Oui, alors j'ai une famille qui est en Charente.
Elle va déménager ou c'est vous qui allez venir ?
C'est moi qui vais faire des navettes et qui vais me partager entre les deux. Voilà. Et entre l'émission aussi que j'ai à la Fédération et que je conserve évidemment, où là les réunions se tiennent à Paris.
Et vos enfants ?
Alors moi j'ai pas d'enfants, mon conjoint en a, donc
ça suffit,
voilà,
ça
vous savez tout, ça me suffit bien.
Oui, ça c'est déjà bien, mais ils sont peut-être un petit peu âgés quand même.
Il y a une petite, la plus jeune à 14 ans et l'aîné à 20 ans.
Oui, d'accord, oui. Voilà. Parce qu'on tient à préciser que Julia Roberts, c'est pas si jeune que ça.
Tout à fait, j'ai 39 ans. Voilà. Oh, vous saurez tout aujourd'hui.
39 ans, vous rendez compte, vous êtes en train de me vieillir, je suis plus âgée.
Mais pas du tout.
Oh, je ne l'ai pas dit.
39 ans, c'est jeune.
Je vous ai laissé le dire. Donc, ben, oui, on a ce cinéma qui va prendre cette place. Vous dirigez vers carrément les premiers, les préscolaires, on pourrait presque dire, parce que vous adressez aux maternelles aussi. Hein, vous voudriez qu'ils viennent voir les films.
Oui, tout à fait. Alors, je sais qu'il y a des actions qui sont menées aussi par la municipalité de Vierzon, puisqu'on a la chance aussi que la ville soit labellisée 100% EAC, donc éducation artistique et culturelle. Donc, il y a tout un tas de projets qui sont faits en destination du très jeune public. Mais moi, à l'échelle du cinéma, ce qu'on met en place dès ce dimanche matin, donc on va rajouter des séances à 11h tous les dimanches matins. Et sur ces créneaux de 11h, j'ai créé ce qu'on appelle le ciné-lutin. Donc c'est un film...
Les dimanches matins seront réservés à ces séances.
Pas qu'à ces séances, puisqu'on on fera tourner les 7 salles, donc avec la programmation, oui, dire classique.
En tout cas, il y aura ça.
Mais on veut vraiment aussi instituer ce rendez-vous pour le très jeune public, donc on va dire entre 3 et 6 ans, des enfants qui ne vont pas forcément voir des longs métrages qui peuvent être parfois un peu durs pour eux, même en termes de durée, tout simplement.
Moi, je ne sais pas si ça vous fait la même chose, mais moi, je vais avoir 6 ans et je n'oublierai jamais le premier film.
Tout à fait.
Je vais avoir 6 ans.
J'avais 6 ans quand j'ai vu le premier film.
Je croyais que tu allais les avoir.
C'était un dessin animé, c'était Tintin et les Oranges Bleues.
Oui,
mais j'ai les images encore.
Et ça vous a marqué, oui.
Ça m'a marqué. Oui. Donc ça prouve bien qu'il y a un truc quand même. La première fois qu'on va au cinéma, on en ressort, mais c'est de la magie.
Moi, la première fois que je suis allée au cinéma, c'était une avant-première avec des petits de ma classe. Je pense que j'étais en primaire. Il y avait Clémentine Célarier qui présentait un film, et après on a rencontré Clémentine Célarier. C'était vraiment bien.
Mais t'es d'accord
et
avec
elle
moi,
a joué comme du théâtre. C'était assez succinct dans ma tête, parce que je me souviens pas vraiment, mais je me souviens d'avoir vu.
Mais tu te souviens.
Mais ça vous a marqué.
Ça m'a marqué.
Bah voilà.
Le cinéma, voilà. Ça marque et c'est très important.
Et la première
ça aide
fois,
à grandir.
Complètement.
Aussi,
la première fois est extrêmement
complètement. Et ça marque. Mon premier film, c'était Le Roi Lion. Voilà, ah, la première version.
Jean-Luc, ton premier
c'est
film.
C'est vrai que ça marque, surtout quand on va avec nos parents, non ?
Complètement.
Je crois que c'était Les Dix Commandements.
Les
je suis tombé sur un film de 3 heures.
Ah bah alors là,
je me suis endormi, je me suis réveillé. Mais il m'en reste quelque chose, évidemment. Je n'étais pas tout seul. Il y avait plein de copains qui étaient venus, il y avait des grands, des petits. Et ce que je voyais, c'est cet aspect, comment je dirais, social de la chose. C'est-à-dire, on n'est pas seul assis à une table, enfin, ça peut arriver, hein, ou à une, enfin, sur un fauteuil d'ailleurs, parce que bon, je voyais qu'à. Alors, dans les Charentes, là-bas, vous aviez quand même des fauteuils en cuir. Hein.
Alors, en simili-cuir, effectivement. Enfin, oui. Mais ici, on n'a vraiment pas à rougir de la qualité des fauteuils qui ont été faits. Quand tout à l'heure, je parlais vraiment de choix architecturaux et des matériaux de qualité. Très clairement, les fauteuils en font partie. Et ces fauteuils club, donc, c'est-à-dire qui ne se rabattent pas, il y a 18 ans, c'était quelque chose qui n'était absolument pas courant dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, ça devient un petit peu, ça peut nous paraître un peu comme étant la norme.
À l'époque, c'était novateur.
Mais à l'époque, c'était ultra novateur. Ouais.
Et alors là, on n'a pas encore parlé, mais il faut qu'on en parle quand même de ciné-rencontre, parce que c'est un club de cinéma qui s'intéresse au départ beaucoup plus à faire de la critique de cinéma, puis qui est devenu en fait un centre de débat, parce que beaucoup de films arrivent avec des sujets plus ou moins pointus, quelquefois même qui pourraient être conflictuels, et je sais que c'est super bien géré. Vous avez pu rencontrer un petit peu
Alors j'ai rencontré le président de l'association, John Ryan, là, juste avant les fêtes, et ce soir, je vais rencontrer le reste des membres et j'espère du monde à l'occasion de l'Assemblée Générale et du premier débat que je vais prendre en charge en matière de programmation. Voilà, donc là, c'est ma France à moi pour ce soir. Et en tout cas, j'ai été ravie de découvrir John juste avant les fêtes et de voir là aussi l'importance que le débat avait au sein du cinéma et la place de l'échange. Et donc ça, je trouve ça très chouette. C'est quelque chose que je faisais à Gara beaucoup, les ciné-débats. Et là, de voir qu'il y a une association très impliquée, très dynamique et qui propose justement et qui se risque à tout un tas de sujets comme vous l'évoquiez, c'est quelque chose qui culturellement est très chouette et fort. Voilà.
Et en plus, c'est une culture qui se perd, parce que je dirais que la notion du débat, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Les réseaux sociaux n'y arrivent plus, hein, je dirais, est-ce qu'ils y sont jamais arrivés?
C'est pas des débats sur les réseaux sociaux, c'est devenu de moins en moins
des débats. Bon, j'arrive à trouver encore des réseaux sociaux, on peut débattre, mais ils sont très rares.
Et je
me rends compte, le vrai problème, c'est qu'il y a un manque d'éducation de ce côté-là. Les gens n'ont pas les outils qui leur permettraient. Et c'est vrai que ce que fait Ciné-Rencontre, je l'ai brosse dans le sens du poil, parce que j'aime beaucoup la façon dont c'est géré. Hein. Il y a des responsables qui savent faire un débat et savent écouter des avis très divergents, parfois totalement opposés. Et on arrive à les entendre sans que ça se termine avec des chaises cassées et puis des bagarres dans la salle. C'est toujours d'une haute tenue.
En parlant de chaises cassées, quand même, il y a eu un gros truc. Là. Je ne sais pas si tu as vu avec le film Les Segpa au ski, il y a des salles qui ont été ravagées. Quoi.
Alors,
ce qui est quand même... C'est hallucinant.
Assez hallucinant. Il y a eu quelques cas en France, effectivement, de débordement dans les salles. Ça arrive, hein, parfois. Voilà, je ne veux pas diaboliser ou en rajouter, mais ça peut arriver. On a eu des cas l'an passé sur des films.
C'est embêtant parce que ça tombe sur un film, les Segpa, quoi.
C'est ça, ça et stigmatise
ça,
tout de suite.
Ça stigmatise, voilà, le mot exact. Et ça, c'est extrêmement gênant, quoi.
Mais c'est vraiment lié à ce déficit d'apprentissage du débat, c'est-à-dire de dire, quand quelqu'un parle, peut-être que c'est pas du tout ce que j'imagine, peut-être que c'est même opposé à mes idées, mais quelquefois, si on laisse un petit peu les choses se développer, d'abord, il y a des gens qui s'auto-censurent eux-mêmes, au bout d'un moment, ils voient sont allés trop loin, je l'ai vu dans des débats justement assez pointus.
Ah bah c'est parce qu'ils sont à l'écoute de l'autre. Hein.
Et voilà, et à partir du moment où ils sont écoutés, et quand quelqu'un est écouté, il est beaucoup plus capable de s'auto-censurer derrière. Et ça implique justement cette ouverture. Bon, c'est ce que fait Ciné-Rencontre. D'ailleurs, vous allez les voir. Mais c'est vrai que ce n'est pas que de la critique de cinéma. Parce que ça m'aurait un petit peu lassé. Je ne suis pas trop branché là-dedans. Mais du débat tout court.
Oui.
Et donc, c'est vraiment quelque chose qu'ils savent bien mener. Vous les verrez. D'ailleurs, ce soir, c'est leur Assemblée Générale.
C'est l'Assemblée Générale, tout à fait.
Donc, et puis derrière, il y aura un film.
Oui, tout à fait.
Un film sur...
Ma France à moi.
Ma France à moi, donc un film sur les réfugiés, en fait, hein, sur l'accueil, la façon dont peuvent être accueillis des réfugiés.
Tout à fait. Donc, et c'est, ce soir, l'association qui choisit,
c'est ce soir.
Qui propose les films, et moi je me charge après de la négociation, mais c'est toujours sur une proposition de leur part. Ça, je tiens à le préciser.
J'ai vu la bande-annonce, voilà. Ça a l'air très très bien.
Ouais,
en plus,
tout
vraiment.
À fait. Ouais.
Alors, vous pouvez expliquer un petit peu comment s'appelle ce film ? C'est un documentaire ? C'est
alors,
quoi exactement ?
Non. Pas du tout.
C'est avec Fanny Ardant.
C'est avec Fanny Ardant, voilà. D'accord. Tout à fait. Et c'est pas documentaire.
Pas du tout, non. C'est...
Moi, alors, moi, je l'ai pas encore vu. Donc là, j'ai négocié voilà, pour John, on va dire, la sortie du film.
C'est une femme bourgeoise qui vit quand même dans le confort et qui, à un moment donné, va ouvrir sa porte pour accueillir un Afghan, Afghan chez elle.
C'est Fanny Ardant. Donc.
C'est Fanny Ardant. Alors forcément, son entourage ne comprend pas comment tu peux faire ça, comment tu peux avoir confiance en lui. Parce que là, ça pose effectivement toutes les questions de... Donc c'est assez intéressant.
Donc, ça sort ce soir
C'est une projection. Film est sorti juste avant les fêtes. Et là, on le propose ce soir dans le cadre du ciné-rencontre, donc avec l'association. Et on propose quelques séances complémentaires en après-midi jusqu'à mardi prochain. Donc je crois de mémoire, vendredi, lundi et mardi prochain, pour des gens qui souhaitent le voir, qui ne peuvent pas être disponibles ce soir. Voilà.
Donc, vraiment, c'est un film à voir.
Un film à voir et à essayer de comprendre.
Il pose un sujet très, très intéressant.
C'est quand même un thème de société
et complètement d'actualité.
Et puis voilà, ça ramène le débat à un autre niveau que ce qu'on a vécu ces quelques semaines précédentes, parce que on a aussi à réfléchir là-dessus.
Bon, je
vous propose un Grimm Alright. Je ne sais pas si vous connaissez.
Allez.
Bon, il a repris des chansons de Dylan, là en particulier qui s'appelle Qu'as-tu appris à l'école, l'école de la vie, l'école du cinéma, enfin toutes les écoles. Et donc là, on va entendre Grimm Alright qui nous chante « Qu'as-tu appris à l'école, mon fils ?»
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? J'ai appris qu'il ne faut mentir jamais, qu'il y a des bons et des mauvais, que je suis libre comme tout le monde, même si le maître parfois me gronde. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Que les gendarmes sont mes amis et tous les juges très gentils, que les criminels sont punis pourtant, même si on se trompe de temps en temps. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Le gouvernement doit être fort, a toujours raison et jamais tort. Nos chefs sont tous très forts en thème et en élit toujours les mêmes. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école. Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui ? J'ai appris que la guerre n'est pas si mal, qu'il y en a des grandes et des spéciales, qu'on se bat souvent pour son pays, et peut-être j'aurai ma chance aussi. C'est ça qu'on m'a dit à l'école, papa, c'est ça qu'on m'a dit à l'école.
Vous écoutez Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.
Et il est 14h37.
Il va falloir qu'on arrive à conclure. Bon, Aurélie, on vous reverra, j'espère, à
et
la radio.
Hein.
Mais ce serait intéressant.
Alors, ce qui serait bien, je recrute continuellement pour la radio, ça serait bien que quelqu'un du cinéma nous donne toutes les semaines un petit peu le programme audio de ce qui se passe, ce qu'il va y avoir au cinéma. Alors, hein, ce serait pas bête, j'irais même, et qu'on pourrait passer plusieurs fois dans
voir même le coup de cœur.
Bon, moi, je pense que, honnêtement, Aurélie Delage, elle aurait carrément pu faire une chronique chaque semaine. Alors, ça aurait été mieux.
Elle a un planning quand même, un agenda. Ah oui.
Alors, moi, je serais ravie. Après, il faut juste que j'arrive à caler ça dans mon emploi du temps.
Mais c'est possible.
Mais effectivement, peut-être que le lundi, au niveau de la programmation, quand je fais les négociations le lundi matin, je peux tout à fait vous. Déjà, premièrement, ça, c'est facile, vous communiquer le programme de la semaine et vous faire un audio, pourquoi pas.
Et pourquoi pas ?
Des petits coups de cœur.
Et une fois par mois sur le plateau.
Ah, écoutez, avec plaisir, mais je ne veux pas lasser les gens. Les gens vont en avoir marre de moi. Vous allez vous lasser de moi.
Non, mais
on a besoin.
Les coups de cœur. Avec plaisir. Les coups de cœur, c'est quelque chose. On est en train de négocier ça avec Jean-François par rapport au livre. Oui. Mais je crois que ça peut aussi se faire pour le cinéma. Et pourquoi pas sur Radio Tintouin et qu'on ait des rendez-vous réguliers tout où les gens peuvent dire tiens, je n'ai pas trop ce que j'ai envie de voir cette semaine. Qu'est-ce qu'ils vont me dire de beau? Qu'est-ce que j'ai de beau à aller voir?
Mais surtout que ce sont des professionnels qui parleraient. C'est pas comme si c'est un chroniqueur ou une animatrice comme moi qui se déplace. Là, au moins, on sait qu'elle sait de quoi elle parle.
Ça crée du lien. C'est ce qu'il faut.
Et puis, c'est le but de cette émission et d'ailleurs de toute la radio. Hein. La radio qui crée le lien. C'est son but. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour conclure un petit peu de votre côté, Aurélie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de beau sur ce qui va se passer là, dans les jours et les semaines qui viennent là, sur le cinéma?
Alors déjà, la première action que j'ai menée là, cette semaine au niveau de la programmation, c'est d'intensifier le nombre de séances. On a rajouté des séances chaque jour en après-midi avec des horaires un petit peu modifiés. Les séances aussi le dimanche matin pour toucher un public un peu différent. Le matin, se faire une petite sortie. Donc ça, c'est vraiment une première action qui est visible. Donc le but, c'est d'augmenter la diversité des films, la proposition, la pluralité des propositions, aussi bien sur des films grand public que sur des films d'auteurs plus confidentiels. Hein. Cette semaine, on sort un film mongolien, Si je pouvais hiberner. On fait partie de quelques salles de France et c'est un très très beau film à voir. Et on sort aussi une comédie plus girly qui s'appelle Mean Girl, pour le coup, chez un gros distributeur américain. Le but, c'est que tous les publics se retrouvent au sein de
c'est
de favoriser la diversité et que l'ensemble des spectateurs se retrouvent dans notre ciné-lumière.
Et puis ça permet justement d'avoir des spectateurs différents qui gardent des démarches différentes parce que tout le monde n'arrive pas au cinéma pour aller voir le gros truc, Les Dents de la Mer.
Exactement. Ou le blockbuster.
C'est le danger des grosses boîtes qui ont envie uniquement de faire du chiffre.
Tout à fait.
Et là, il faut garder cette diversité qui est la preuve de la vie en fait.
La programmation, il faut qu'elle soit riche pour avoir
En même temps, Aurélie, ça représente beaucoup de temps au téléphone à négocier avec les uns et les autres, non ?
Alors la programmation, c'est une phase importante du métier, effectivement, puisqu'on négocie. Alors le jour de marché national, pour tout vous dire, c'est le lundi matin, où là, pour le coup, ne m'appelez pas un lundi matin, pour le dire autrement, puisqu'on est entre les mails, les échanges téléphoniques, la conclusion de la négociation avec les distributeurs, sur le nombre de séances, sur les jours de diffusion, sur les avant-premières quand il y en a. Donc là, c'est vraiment jour de marché. Et après, tout au long de la semaine, on échange aussi avec les distributeurs sur des prochaines sorties, sur des événements possibles. Tout à l'heure, vous parlez du livre. C'est vrai qu'on a pas mal de passerelles possibles entre le cinéma et la littérature.
Tout à fait.
Vrai qu'on essaie de monter des événements après, donc en dehors de ce fameux lundi de programmation, mais pour toujours enrichir et diversifier notre programmation.
Oui, c'est vraiment on le ressent à travers tout ce que vous dites, qu'il y a vraiment cette envie d'une richesse, d'une variété qu'on ne trouve pas toujours. C'est vrai que les Américains en sont arrivés à avoir 3 variétés de miel, 2 variétés d'asperges, etc. Parce que pour eux, il faut que ça rentre dans un marché qui est quand même très réduit. Alors que là, vous voyez la chose complètement différemment.
Et puis,
en plus, je dirais que vous avez démontré en Charente, là-bas, que c'était rentable, ça peut marcher.
Ça peut très bien marcher.
Oui, parce que vous étiez dans un contexte concurrentiel.
Complètement.
Et vous êtes arrivé à attirer du monde, puisque vous aviez plus de 80 000 spectateurs.
Hein. Alors, avant Covid, on était monté à 295 000 spectateurs sur un cinéma de 6 salles, donc dans zone concurrentielle, face à un CGR, pour ne pas le nommer, qui en avait 12. Voilà. Donc c'était un pari, c'était 12 écrans, excusez-moi.
Pas 12 spectateurs,
non,
pas 12 entrées.
Excusez-moi. Et non, on peut faire... moi, c'était le pari que j'avais fait. On peut faire... alors, évidemment... On se doit de passer des blockbusters pour des questions de rentabilité, on va pas se mentir. Néanmoins, moi, je trouve que la force d'avoir plusieurs salles, et là, en l'occurrence, à Vierzon 7, c'est qu'on peut se permettre de varier. On n'est pas en zone concurrentielle, ce qui facilite les négociations aussi avec les distributeurs, parce qu'on n'est pas à comparer ce que le voisin fait. Et ça, ça a une vraie importance dans nos échanges le lundi matin. Donc, on a quand même cette possibilité-là qui est vraiment chouette. Et voilà, moi, j'ai envie de profiter de ça, de cette petite chance et de ce particularisme, on va dire, local, pour proposer le maximum de films. Comme vous le disiez tout à l'heure, quand on voit le nombre de sorties qu'on a sur le territoire français en première exclusivité chaque année, alors on ne peut pas tout passer, c'est évident.
Mais ça dépend aussi, par exemple, du nombre de copies disponibles.
Tout à fait.
C'est pas
tout...
seulement votre
ah, non,
choix,
non, non.
C'est...
Tout à fait.
Ça ne s'arrête pas là. Il
non,
peut
non.
très bien ne pas y avoir cette copie.
Tout à fait. On est... alors, même si avec le numérique, ça change un peu la donne, mais on est toujours sur des principes de distribution de plans de sortie avec un nombre de copies définies.
Exactement.
Et parfois, moi je sais que lundi matin, ça m'est arrivé qu'on me dise non, on n'a pas assez de copies, donc on préfère servir Bourges, que Vierzon.
Ah oui.
Le distributeur, dans tous les cas, reste maître de son plan de sortie.
C'est vraiment comme sur le marché où tu achètes quelque
tout
chose.
À fait.
Quoi. C'est exactement.
Tout à fait. Oui, je ne sais pas comment ça se passe après au niveau du livre, mais c'est vrai que nous, on est contraint par le nombre d'écrans, par le nombre de copies.
Non, mais vous prenez l'exemple d'un libraire. La rentrée littéraire, c'est 6000 livres.
Voilà.
Vous le voyez mettre 6000 livres
voilà.
Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Donc c'est pareil. Je veux dire, il y a des choix à faire.
Il y a des choix à faire. Donc très bien de ce côté-là. Je précise, parce que là, je vous remercie déjà, Aurélie, d'être venue.
Merci pour l'invitation.
Merci. Et puis merci de l'avoir honoré, parce que vous auriez pu dire, qu'est-ce que c'est que cette petite radio locale ?
Pas du tout.
Mais non, ça n'a pas été le cas.
Donc, c'est quand même la radio de Vierzon, quand même.
Il faut savoir que juste à côté du studio, là, nous avons actuellement le Café Aubéry, c'est comme ça que ça s'appelle, qui fait de la programmation aussi musicale ou autre. D'ailleurs, il y a plein de choses qui se font. Et donc, ce week-end, vendredi, il y aura Tulsa Spirit du Rock Blues Country à 19h30, donc c'est vendredi soir.
Alors pour Aurélie, le Café Aubéry est un café associatif.
D'accord.
Voilà oui, on va vous
super.
Apprendre plein de choses comme ça.
Super.
Samedi, il y aura Piotki, oula, un Lyonnais, d'accord, ok, compositeur-interprète de chansons françaises à texte. Bon, pareil, ça sera à 19h30, donc samedi, là, qui nous vient, le 14, je crois. Et puis dimanche, il y aura deux ateliers, tricot avec Mireille et art plastique avec Patricia, l'association Les Dix Doigts. Je ne sais pas si on en a déjà parlé.
On en a parlé.
On les a invités ici aussi.
Ouais.
Donc ça sera l'après-midi à 15h30, toujours ici, juste à côté du studio de Radio Tintouin. En attendant que les travaux soient finis à l'endroit qu'ils vont récupérer après. Là, ça, j'explique un peu ça pour Aurélie qui ne connaît pas toutes les arcanes des soucis vierzonnais. Donc voilà, il y a ce week-end plein de choses qui se passent au Café Aubéry. Alors je rappelle, le Café Aubéry, c'est gratos. Et chacun, il donne au chapeau, comme on dit. Ça veut dire, en fonction de ce qui a plu ou pas, on met des sous au chapeau pour le chanteur ou pour le groupe de théâtre. Enfin, il y a plein de choses qui se passent ici. Donc voilà, c'est ce week-end. Et je voulais en parler parce qu'on essayait toujours d'en parler en fin d'émission. Je remercie Jean-François qui est venu nous aider.
Mais je te remercie.
Et qui m'a permis de rectifier des fois où j'allais trop loin dans mes propos.
Je serai toujours là pour te servir de tampon.
Et Sonia, écoute, c'était ta première, toi, en direct,
merci,
comme
oui,
ça.
Merci,
et bon, il y en aura
sur
d'autres.
Sur Radio Vierzon, c'était ma première.
Ouais. Et Sonia, on attend la suite, puisque il y aura une émission.
Elle aura une émission. Bon, là, on sera dans le rap.
Bon, moi, je suis très rap.
Du rap avec des invités, là aussi. Ouais. Bon, il y en aura plein de choses.
Mais c'est la diversité.
J'aurai des invités qui viennent de Paris. Hein.
Super.
Forcément, à chaque fois que je change de radio, ils me suivent, mes invités.
Et puis là, pour aller à Paris, c'est tout simple.
C'est à côté.
C'est tout droit.
Je précise qu'avant j'étais en Alsace. Hein.
Oui.
Je fais plein de radios en France et là je me trouve à Vierzon, pas loin de Paris, donc ce sera beaucoup plus facile
oui.
pour moi. Et c'est vraiment une belle radio, des beaux locaux. Donc en tout cas, on est très très bien partis.
Et puis il reste à remercier Aurélie.
Mais merci à vous
et
pour
j'espère
l'invitation.
Qu'on vous reverra.
Avec plaisir.
Et puis réfléchissez à cette petite idée d'une programmation audio là, pour les gens, avec peut-être, pourquoi pas, comme disait Jean-François, le coup de cœur de la semaine.
Tout à fait. Oui, et des films sur la littérature. Il y a une idée à creuser là.
Complètement.
C'est très,
ouais,
très
complètement.
Intéressant, une idée à creuser.
Merci beaucoup. Donc,
merci à vous.
Écoutez, Radio Tintouin se termine et nous allons donc terminer avec quoi d'ailleurs ? Qu'est-ce que je vais nous mettre de beau ? I feel the blues moving in.
Quel accent, mais quel accent !
Non, pas, moi je ne suis pas très bon là-dessus.
Ah,
mais
si,
n'empêche
si,
que
si,
j'aime
si.
Bien, c'est du country, hein, je suis assez branché country hein, d'ailleurs.
Oui, on a vu.
C'est The Petersons, c'est toute une famille qui joue de tous les instruments d'un groupe de country.
Strengthen as it has so many times before, but something has happened. I can see it in her writing, and I can tell the world is crumbling and the blues are at my door. The last letter that she wrote was on a blue piece of paper. That old feeling's back, the clouds are moving in. The beginning of the end is near. I feel her love is fading into darkness. It seems I have no friends. I feel the blues moving in. She wrote that made me sad and brokenhearted. It put me in the sad shape I'm in. Between the lines are mixed emotions, and there's teardrops on the paper. And she said it's all alright today. I'm close for now, old friend. The last letter that she wrote was on a blue piece of paper. That old feeling's back. The clouds are moving in. The beginning. The end is near. I feel her love is fading into darkness. It seems I have no friends. I feel the blues moving in. Desperate as this hole that I'm sinking in gets deeper as I'm digging to get out. Oh, please give the right answers to these questions I'm asking. Tell me she still loves me and it would turn my world about.